rôle que le Créateur veut lui assigner selon la révélation biblique. On a refusé le rôle d'Israël. Moïse sait cela. Il faut rejeter à la fin des temps complètement ce projet primordial de la sortie d'Égypte. Nous savons que nous allons commencer notre histoire qui a commencé avec Josué dans l'hostilité générale. Alors Moïse demande, nous allons accepter la Torah, mais à une condition, que les goïms n'aient plus la capacité prophétique. Pourquoi? Parce que déjà comme ça, nous savons cela maintenant, déjà comme ça, sans qu'ils aient la capacité prophétique d'expliquer le plaidoyer de leur dossier contre Israël, déjà la tâche d'Israël est impossible. Alors si en plus ils avaient des prophètes, où serions-nous? Vous voyez quel est le raisonnement? C'est une manière d'expliquer, mais comprenez-la déjà. Est-ce que c'est clair? Je vous donne un exemple. Il y a une civilisation, la civilisation chrétienne, qui conteste au peuple juif d'être Israël et qui se prétend à elle Israël. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, et elle le fait. Alors s'ils savaient ce qu'ils disent, en plus, vous avez compris ce que je dis? Où on en serait? Les amitiés judo-chrétiennes, il y avait pas HD. Il y a un dossier des Syriens qui réclament ce qu'ils appellent la Palestine, c'est-à-dire la province sud de la Syrie, les descendants d'Eliezer de Damas. Okay? Et là, ils savent pas ce qu'ils disent. Et s'ils savaient ce qu'ils disent, où on en serait? Vous voyez, c'est ça l'inquiétude de Moïse. Il n'y a pas de consensus pour que toi, ce que toi tu veux faire d'Israël, toi Dieu tu veux faire d'Israël. Alors si tu ne leur enlèves pas la capacité prophétique, ils vont pouvoir plaider leur dossier de façon telle qu'on ne supportera pas dans l'histoire. Déjà comme ça, c'est difficile. Et tu veux encore leur laisser leur capacité prophétique. Oui, c'est une ligne de la Gemara. Et la Gemara dit, et Dieu a accepté. Parce que sinon l'histoire juive aurait été impossible. Déjà comme ça, elle est impossible. Voilà, ça y est, c'est bien clair? Bon. Qu'est-ce qui est très difficile? C'est pourquoi j'ai repris la réponse de monsieur tout à l'heure. Le diagnostic de la haine contre Israël est préalable à l'éventualité que même avec la prophétie, il serait contre. Voilà comment est l'ordre des découvertes de l'expérience historique. Premièrement, Halacha, Esav sonnait Yaakov. Halacha. Vous savez, quand le Midrash dit Halacha, c'est très fort. Hein? Nous apprenons une Halacha du Midrash. Esav sonnait Yaakov, il n'y a pas d'exception. Si, à l'échelle individuelle, il y a des exceptions. Et encore, pourtant. Mais nous savons cela. Les Goïms haïssent Israël. Un point. Nous avons énormément d'amis à l'échelle individuelle chez les Goïms. Ça n'a pas empêché l'histoire juive d'être ce qu'elle est. Que les Goïms haïssent Israël. Attendez, laissez-moi finir de parler. Bon. Premièrement, c'est ce diagnostic-là. La haine des nations contre Israël. Vous allez me dire, pourquoi? C'est un autre sujet, on peut en parler. C'est un autre sujet. C'est Ouda, c'est un fait, c'est un acte. Donc. Mais je voudrais être bien clair. Je ne pense pas que les Juifs ou le judaïsme ou Israël n'aient pas des amis chez les Goïbes. À l'échelle individuelle, il y a énormément d'amis vrais, sincères et d'amants de Sion chez les Goïbes. Ça n'empêche pas l'histoire d'Israël d'avoir été ce qu'elle a été. Mais aucune idée, l'héroïsme à l'échelle individuelle, au temps de la Shoah, de la part de beaucoup de prêtres chrétiens, à tous les niveaux de la hiérarchie d'ailleurs, ça n'empêche pas que l'Église a couvert ce crime. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est vrai. Donc il y a un état de fait que Moïse diagnostique. L'humanité a refusé Israël. Alors, si en plus, ils avaient la force de contester Israël qu'ils haïssent, par la prophétie, et c'est ça, Bilaam, lui avait cette capacité-là, hein? C'est pourquoi nous allons arriver à Bilaam, l'anti-Abraham, et alors, l'histoire d'Israël serait impossible, ta Torah, on ne peut pas la recevoir. Alors nous allons être jugés d'après un projet historique qui nous est contesté par toutes les approximations que l'histoire a laissées sur Terre. Et Moab, et Amon, et Pelachet, et Ur-Kasdim, et les Bnei Noach, et Ishmael, et Esav, et Amalek, et etc. Le monde entier. Qui reste personne. Laissez-moi finir, vous comprenez? Alors, voilà ce que dit la Gemara. Ceci, je voulais rappeler, je voulais expliquer, pour vous expliquer cela, que la capacité prophétique de Bilaam est d'une autre nature que celle des prophètes des nations. vous comprenez, va apparaître là une instance beaucoup plus forte et donc beaucoup plus grave. C'est pourquoi la Torah nous a laissé ce récit, que Israël est accompagné dans son histoire par la malédiction de Bilaam, par la volonté de malédiction de Bilaam. C'est un prophète des nations comme instance internationale, le prophète des nations dans son ensemble, dans leur ensemble contre Israël, et plus le prophète de telle ou telle nation dans son dossier particulier contre Israël, de nos kilomètres de frontière. Enfin, la circonférence de la Terre toute entière est moins longue que les kilomètres de frontière où il y a à chaque fois un dossier, une contestation. Vous comprenez ce que je veux dire, okay? Ça a été l'histoire de ce peuple, le nôtre. Alors, apparaît là une instance qui est Bilaam, et qui est au-delà encore des prophètes des nations. Il est le prophète de toutes les nations ensemble. Alors nous allons maintenant essayer de découvrir qui est ce Bilaam, pourquoi, ce qui était notre question, le Midrash le pose à Abraham et pas à Moïse. Est-ce que c'est clair? Voilà quelle sera notre étude. Qu'est-ce que vous vouliez demander?
Mais à la limite, cette opération de Moshe, pas d'avoir des bitachons, donc la réalisation du projet du créateur pour Israël. S'il a besoin de cette aide, qu'on enlève la prophétie aux autres, c'est un peu une
mouna. Non, c'est qu'il a l'expérience de la vie, de l'histoire, de la réalité. Je veux dire, moi j'aurais tendance à dire comme vous. Moshe a manqué de foi. Ce qu'il y a pour Moïse, c'est que je ne suis pas Moïse, c'est lui qui est Moïse. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Ça veut dire, de qui on parle? Précisément de celui qui a eu cette expérience-là. Nous réagissons de façon théorique, en envolée abstraite, académique, dans le cabinet de travail. Moïse a vu qu'est-ce que c'est que la haine contre Israël. Alors il sait qu'il n'y a pas d'espoir. Ce qu'a cité, je veux dire, j'aurai l'occasion de le dire demain soir. Et je vais essayer de vous faire comprendre, peut-être je ne peux pas le dire trop, de façon trop large. Je vais vous faire comprendre une des dimensions de la différence entre l'identité israélienne et l'identité juive, qui continue en diaspora. Une des différences. C'est que, plus ou moins avoué, plus ou moins lucide, plus ou moins clair, le parti pris israélien de notre temps, c'est le fait que nous n'avons plus aucune confiance dans l'égoïsme. Alors on est rentré chez nous. C'est ça qu'il faut comprendre, à la limite. Bien? Parce qu'on a eu l'expérience que, après ce qui s'est passé, eh bien, ce serait criminel de faire semblant encore de croire que ce que j'ai cité dans le Midrash, Halakha, Esav, Sonet Yaakov, peut-être que le Midrash s'est trompé. Le Midrash s'est pas trompé, voilà que l'histoire lui a donné raison. Alors pas tous les Israéliens vous diront ça de façon aussi carrée, mais c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que à l'échelle individuelle, nous n'avons pas encore une amitié totale et absolue avec beaucoup de goïms, mais à l'échelle individuelle. Mais nous n'avons plus aucune confiance dans ce qu'on appelle dans le Midrash « Hasdé Agoïm ». On ne peut plus confier notre sort d'homme, de juif, à la charité des nations. Ça n'existe pas, la charité des nations. La charité de tel ou tel individu des nations, nous connaissons cela. Et ils sont capables de performance. Mais la charité des nations, ça n'existe pas. J'ai suivi, je ne voulais pas, mais j'ai suivi quand même le débat hier soir à la télévision, et j'étais frappé de cela. Vous savez, j'ai vécu cette époque. Je me rappelle, juste après la guerre, c'était le centre de documentation juive contemporaine a été fondé par un Schneerson, dont j'ai été l'ami personnel. Vous l'avez connu, ce Schneerson, pas le rabbin Schneerson, il est de la même famille, mais c'est pas le rabbin Schneerson. Et toutes les instances juives se sont opposées à son projet. Oublions, laissez-nous tranquilles, on ne veut plus penser. Ce qui s'est passé était terrible, on ne veut plus y penser. Et il s'est battu comme un diable pour que on rassemble la documentation, pour qu'on fonde un centre de documentation. Il a dit, faites attention, c'est Amalek a traversé le monde, et dans la Torah c'est écrit, il ne faut pas oublier ce qu'a fait Amalek. Parce que si on ne se rappelle pas, on va oublier. Alors en voyant la réaction de la jeune génération qui était à la télévision là, par rapport aux anciens évangiles, j'ai compris cela, que nous souvenons des criminels de faire semblant qu'on n'a pas eu cette expérience. Nous l'avons eu. Ben, moi j'ai décidé que je n'étais pas d'Occident dans l'armée française pendant la guerre, en voyant ce que c'est que l'Occident. Et j'en suis pas, même si j'en ai jamais été de l'Occident. C'est fini. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. Une espèce de... C'est ça, le diagnostic de Moïse à la sortie d'Égypte. Et Namunabagoïm. Comment, un point.
Amalek le Dordor.
Zéro. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nous considérons que n'importe quel non-juif est candidat à être barbare. Pas du tout, c'est pas ça. À l'échelle individuelle, il y a des saints chez les goïms. Okay? C'est sûr. Mais, quand je dis les goïms, ça veut dire les nations comme telles, les sociétés goïms, j'ai vu, les sociétés goïms et leur conception de la gestion de l'histoire. Rendez à Dieu ce qui appartient, rendez à César ce qui appartient à César, et rendez à Dieu ce qu'a, le reste, c'est-à-dire rien. Le dualisme entre la morale et la politique, etc. En Emouna, c'est fini, vous comprenez? Et voilà. Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Qu'est-ce qu'une collectivité que nous sommes d'individus, en fait?
C'est autre chose.
Comment peut-on parler d'individu pour opposer à une...
Non, écoutez, c'est absolument autre chose. Faites un peu de psychologie, de sociologie, et vous découvrirez qu'il y a une entité collective qui est une réalité d'ordre spirituel et pas physique de la somme des individus, qui est la société comme telle, et qui déclenche et qui gouverne des mécanismes qui prennent les individus au piège, que les individus comme tels, laissés dans leur liberté individuelle, n'auraient jamais fait. Okay. Ils sont des victimes, tous ces barbares-là. Ils sont des victimes de leur manière d'être homme à l'échelle collective. Ils sont des victimes de leur génie national. Je ne sais pas comment vous dire ça. Les mots nous manquent, mais je pense que vous comprenez l'idée. Okay. Je ne sais pas, je vais essayer de le dire. J'ai conscience absolue que je suis en France, et en France chrétienne.
Conscience collective.
Ça dépend à quel sens vous donnez, mais oui. Je vous dis, j'ai bien conscience que je suis en France, et dans la France chrétienne, bien que nous soyons centrachis, il n'y a pas d'extraterritorialité des synagogues. Mais je dis la chose très, très simplement, comme je l'ai vécu et comme je la pense. À l'échelle individuelle, je crois que beaucoup de Français sont des hommes extraordinaires. La France, c'est la barbarie. Voilà la différence. Je vous le dis comme ex-français. J'ai vécu la France. Et ça n'a rien à voir avec les Français. Les Français peuvent être des héros de la vertu. Tel un tel, et c'est vrai. Si j'ai encore mes pieds, c'est parce qu'une petite infirmière sur le front m'a sauvé les pieds des pieds gelés dans les trous de tranchées pendant la guerre. C'était une petite bonne sœur. Okay? Et c'était de l'héroïsme. Et je sais cela, mais la France, c'est la barbarie, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme l'Amérique, comme la Russie, etc. Vous me direz Israël, c'est un autre chapitre. Okay? C'est un autre chapitre. Mais voilà le problème. Voilà quel est le problème. Il y a un diagnostic de Moïse, il y a la haine d'Israël dans l'humanité. Alors enlève-leur la prophétie. Voilà l'analyse auquel je voulais arriver. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Plus fort, je n'entends pas quand j'ai pas mes lunettes, oui. Non, mais c'est vrai en plus. Quelle épreuve?
C'est ça l'épreuve, c'est-à-dire que nous ayons la capacité prophétique et qu'elle soit retirée aux nations.
Oui.
C'est ça l'épreuve, vous avez dit non.
Non, parce que je n'ai pas compris et je ne comprends pas encore.
Expliquez-moi. C'est très juste, c'est la première fois. Parce qu'on comprend le rapport avec Abraham et la question que posait M. Lachman en disant pourquoi il n'y avait pas de témoin.
Expliquez-moi, j'arrive pas à comprendre. Quand tu dis c'est ça l'épreuve, tu veux dire quoi?
C'est pas moi qui l'ai dit, je
cite. Non, mais tu veux citer quoi?
C'est-à-dire que j'avais pas pensé à ça, mais ça me semble important que vous avez dit ça aurait été plus facile s'ils avaient eu de la prophétie pour comprendre la prophétie d'Israël.
Oui, oui. Je vous ai dit ça contre Moïse avant de donner l'explication.
C'est juste.
J'ai encore pas compris, hein.
Si vous permettez de comprendre,
oui.
La question de M. Lachman sur pourquoi Ismaël, pourquoi il n'y avait pas de témoin.
C'était pas des témoins.
Pourquoi il n'y avait pas de témoin?
Pourquoi ça ne se passait pas comme avec Eliyahu qui a dit voilà, devant tout le monde, Abba, Yanini, voilà.
Expliquez-vous. C'est-à-dire, quelle relation faites-vous entre l'analyse que nous avons de cette question de Moïse demandant que la prophétie s'arrête chez les goïms, et le fait qu'il n'y avait pas de témoins dans... Expliquez-moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a un tabou, je ne sais pas.
Mais... Parce que voilà, pour les témoins, le fait qu'il y avait des témoins, ça veut dire qu'il n'avait pas lieu pour voir. Il ne comprenait pas quel était le sens de l'épreuve. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour comprendre le sens de l'épreuve.
Ah, ça y est, j'ai compris. C'est une analogie formelle, mais je crois qu'elle est féconde. Mais, merci, j'ai fini par comprendre. C'est-à-dire que c'est ça l'épreuve d'Israël, lui qui a la Torah et le sens prophétique, personne ne peut comprendre ce qu'il sait. Personne ne peut comprendre ce qu'ils font. C'est exact. Là, il y a toute une série de Midrashim, par exemple, à propos de la destruction du temple. Si les Goïms savaient que quand ils ont détruit le temple des Hébreux, de Jérusalem, c'est la prunelle de leurs yeux qu'ils ont détruit, ils demanderaient des yeux pour pleurer. Et, il y a des textes comme ça. Hein. Ils ne savent pas, ça a été repris par les évangiles, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils font, mais nous ne disons pas ça. Donc ne leur pardonne pas, bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'ailleurs, parce qu'ils savent ce qu'ils font, en plus. Mais, grosso modo, ils ne le savent pas par l'inspiration prophétique, ils le savent par la leçon de l'histoire. Maintenant, ils savent ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est clair. Mais je crois que nous sommes arrivés à un temps où, en fait, vous savez, pendant des années, je disais à mes élèves, quand on parlait de ces choses-là, et surtout en Israël, il y a un volcan qui couvre en Europe, c'est la conscience allemande. Parce que une culture pareille, avec un tel remords non avoué, un tel repentir non fait, un tel refoulement, une telle culpabilité, c'est c'est
deux échecs.
Lesquels?
Les deux guerres,
ouais. Oui, disons surtout la guerre. Oui, oui, et c'était épouvantable. Si ça éclate, ça met le feu, le monde à feu à sang. Et alors, je me rappelais de ce que nous avait enseigné Yankelevitch à ce sujet, chaque année, que nous parlons de cela dans les colloques des intellectuels, où il était affolé à l'idée que ces coupables-là ne sont pas capables de repentir. Il a beaucoup écrit, lui c'est un juif d'origine russe, et qui a beaucoup souffert de la Shoah. Je parle de Vladimir Yankelevitch, qui est un très grand philosophe, et qui a étudié la culture allemande pour essayer de comprendre ça. Pourquoi un Allemand n'est pas capable de repentir? Et il est arrivé à cette conclusion. Il y a quelque chose dans la culture allemande qui fait qu'ils ne sont pas capables de repentir. Vous avez lu le compte-rendu du discours de Schmitt, vous l'avez entendu?
Je l'ai voilà. Entendu.
Bon. De toutes les façons, c'est un discours d'homme d'État et pas du tout d'une conscience qui se repent. Mm-hmm. Il y a quelques jours, j'étais en province, il y a quelques jours dans Le Monde, il y a une Allemande qui a écrit « Plaignez-nous, on peut pas faire l'amour tranquille dans la nuit. » Oui. Et je lui ai répondu d'ailleurs en lui disant « Ben voilà, j'ai toujours eu envie de changer de nom, parce que je m'appelle Ashkenazi, c'est-à-dire l'allemand en français. Mais finalement, j'ai décidé. Décidément, par délégation de culture goy, je représente dans mon nom cette identité allemande-là. Et décidément, c'est pas des hommes. Et incapable de se repentir, tu peux pas dire dans une phrase « je demande pardon », non. Tu te plains que tu es malheureuse de ton hérédité d'assassin. Voilà. Vous voyez à peu près le contraire. Et est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est-à-dire que nous sommes sur le premier point. Cette idée que les goïms éclairés ne seraient plus ces assassins, cela, il faut s'enlever du crâne. Le vrai problème, c'est l'antisémitisme, c'est pas l'enseignement qu'on peut leur donner. Le vrai problème, c'est d'extirper l'antisémitisme de chez les goïms. Après, quand ils seront plus antisémites, il suffit qu'ils lisent la Torah pour comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que c'est clair. C'est l'antisémitisme qui est le fond du problème. C'est pas comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas. C'est tellement simple à comprendre quand on étudie un peu beaucoup, mais enfin, on peut y arriver. Et alors, c'est cela. C'est que leur manière d'être, qui se décèle par la névrose ou la psychose, je crois, c'est une psychose antisémite, le professeur Baruch a beaucoup étudié cela, eh bien, les empêche de comprendre. Et lisant le sacrifice d'Isaac, ils en font le mythe de la passion à cause de l'antisémitisme. Vous voyez comment les choses s'inversent. Nous reprenons ça un peu ce soir. C'est pas du tout que... C'est-à-dire, on attendrait plutôt une prière de Moïse. Donne-leur l'amour des Juifs. Mais ça, il l'a pas fait. Peut-être qu'il sait que c'est impossible. Qu'un goy aime un Juif. Un de mes maîtres m'a dit une fois... chaque fois qu'un goy aime un juif, sache que c'est un miracle. Mais il va nous compliquer ça. Pourquoi? Mais c'est pas naturel. Et c'est vrai, ça existe, mais c'est un miracle. Goïkala, Goïkala. Oui, pardon, il y a un appel.
Oui. Oui, il y a une chose que je comprends pas, j'ai du mal à comprendre, qui me gêne beaucoup, c'est d'un côté, bon, c'est certain que c'est quand c'est une fille, mais par les gosses, c'est tourné.
Bilab, Ken, Sina,
défini. Mais d'un côté, qu'est-ce qu'on va apporter de plus, la pauvre fille, chez les nations?
Ben, vous abondez dans mon sens. Elle ne peut rien apporter à cause d'antisémitisme. La preuve. Ils ont avalé. Attendez, attendez. Ben, justement, parce que si. Ils avaient la connaissance, et vous me permettez d'aller un peu plus loin grâce à votre question, la connaissance de ce que la Torah leur enseignerait pour leur dossier contre nous, alors on serait fichu. Parce que, comment on est bien, le bon Dieu joue pas au bille, okay? Il y a des raisons pour lesquelles il a eu envers Jacob. Bon, mais ça, on leur en parle pas. Mais nous savons, nous, quel est le dossier des Ésaü, ils ne le savent pas grâce à Dieu. Okay? Voilà, c'est ça le fond du problème. Parce que si ça va en plus ce que Ésaü pourrait dire contre Jacob, on serait vraiment perdu. C'était ça cette graine de mouille. J'ai mieux fait comprendre. Voilà, c'est ça. Si ils n'avaient pas cet antisémitisme, on leur expliquerait tout, ils auraient leur prophète, et ce serait la grande embrassade générale, le plan du Créateur, l'humanité universelle, avec ce cas particulier du cœur du monde, comme dit Judas Lévi, Jérusalem, Israël, Mandechet Kohanim et Kolkadosh. Mais comme il y a cet antisémitisme, alors leur donner cette explication est dangereuse. C'est pourquoi je m'insurge contre ce fait que, dans la tentative très avancée en France de reformulation de l'enseignement de la Torah pour le monde contemporain, les rabbins transmettent aux curés, et c'est les curés qui comprennent, puisque finalement on parle français. Et ils indexent ça à une conscience chrétienne non débarrassée de l'antisémitisme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très, très, très grave, cette histoire. Et j'aurais à faire allusion ce soir à un phénomène que je crois être un événement dans cette histoire, c'est le livre de René Girard, hein, où il y a un pillage des sources du Midrash, et non seulement sans citer ses sources, mais annexé à l'antisémitisme chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon.
Lorsque vous avez dit donc, que les Allemands avaient refoulé.
Ah oui, alors, je voulais ajouter une phrase, vous me permettez, grâce à votre question. Eh bien, à partir de cette année, je vais pouvoir dire autre chose. Je pourrais dire, heureusement, il s'est passé quelque chose cette année grâce à ce film L'Holocauste, et que ça a donné la possibilité à la jeunesse allemande de se défouler. Peut-être que ça va... Oui, c'est ça. Peut-être que ça va démontrer quelque chose, je ne sais pas. Je vais rentrer un petit incident. Il est significatif, mais peut-être qu'il n'est que infinitésimal. C'est pas tellement ça qui m'inquiète, c'est l'antisémitisme général à travers Israël, à travers l'antisionisme. C'est ça qui est beaucoup plus inquiétant. Mais je me trouvais à Montreux, la petite ville de Suisse où la yeshiva de Montreux, je me trouvais à la yeshiva le vendredi soir qui a suivi la première émission. Et le vendredi soir, la yeshiva a été attaquée exactement comme au temps des nazis par des Suisses, à coups de pierre, etc. Un gosse qui rentrait dans la yeshiva... S'est fait prendre par une bande de voyous et puis ils l'ont laissé évanoui par terre. Il a fallu l'amener à l'hôpital la nuit, etc. Et imaginez ce qui peut arriver. Ça déclenchera aussi des évacuations d'agressivité contre les juifs, okay? Parce qu'il y a un phénomène de mimétisme. Vous savez ce que c'est que la violence, les mécanismes de la violence. Mais, comment? Oui, oui, le mimétisme de la violence. Mais je pense que, grosso modo, l'Europe a reçu un coup de pied au cœur, quoi. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Bon, mais c'est peut-être positif, ça permettra de dégager un peu cette culpabilité-là, je ne sais pas. Mais tant que l'Église comme telle n'avoue pas sa responsabilité profonde, tant qu'elle continue à formuler ses mythes comme elle les formule et il reste antisémite, eh bien, c'est grave. Et en particulier dans sa position vis-à-vis d'Israël comme le juif des nations. Voilà. Oui.
Comment se fait-il, je ne sais pas bien, comment se fait-il que les nations, enfin dans leur génie collectif, on pourrait dire, ont une telle puissance contre Israël, alors que Israël est tant aimé de Dieu, hein, et que Hachem, c'est le Meler, Melarim.
Ça veut dire qu'en réalité, cette haine, ils l'ont contre Dieu. Vous avez donné vous-même la réponse. Ça veut dire que cette haine des nations contre le peuple juif, c'est la haine contre le Dieu vivant, contre le Dieu de la vie. Et ils ne peuvent adorer que le Dieu de la mort, qu'un Dieu mort. Okay? Dont ils disent que c'est le Dieu vivant, une fois qu'ils l'ont crucifié. Et il s'agit de quoi? Du peuple juif, comme véhicule de la révélation du Dieu vivant. C'est ça, mais les rabbins, enfin les rabbis, hein, les rabbins c'est autre chose, mais les rabbinim l'ont dit de façon très claire. Leur haine contre Israël, c'est la haine contre Dieu. Et si vous avez l'occasion, puisque Claude Vigée est à Paris pour quelque temps, de lui demander une conférence là-dessus, il vous montrera ça dans Rimbaud, dans Baudelaire, dans Baudelaire surtout. Que la haine des juifs qu'ont tous ces auteurs antisémites, ça leur vient de la haine de la vie, de la haine, de la panique transformée en haine de la vie du Dieu vivant de la Bible. Il y a une espèce de fascination de la mort qui est tellement évidente dans le christianisme, qui montre bien que c'est pas le Dieu des juifs vivant qu'ils adorent, mais le Dieu des juifs morts. Et pour ça, il faut nous faire vivre cette histoire de la crucifixion. Bien? Parce que c'est cette histoire-là qu'il raconte, ce n'est pas une autre. C'est l'histoire du peuple juif comme il la voit. Et il faut que le peuple juif soit crucifié pour le salut du monde. Et ils le font, qu'est-ce que je vous dis? Ils le font, et l'histoire l'a bien montré. Ken.
Je suis frappé, quand on parle souvent maintenant du sinon de l'égoïme, dans une certaine mesure, je suis très gêné, par le silence des juifs.
Lesquels? Les juifs du silence. Et au sujet de quoi?
Je parle maintenant de l'Holocauste, des silences dans le temps et le silence encore aujourd'hui. Enfin, il y a un grand silence. On n'écrit pas.
Sur quoi?
Sur la Shoah.
Il y a quand même énormément de... Écoutez, je vais vous dire, je reviens... Je reviens à un point un peu de tout à l'heure. Mais pourquoi je dis que l'Église comme telle, les Églises d'ailleurs, pas chez les protestants, chez les orthodoxes, c'est pas mieux, hein. Les Églises ont la clé du problème. Il n'y a que si l'Église reconnaît qu'elle est dans son fond théologique un mythe anti-juif, et se débarrasse de cela, alors peut-être que l'antisémitisme pourrait être désamorcé. Les juifs ne peuvent rien contre cela. Parce que c'est pas un problème de juifs, l'antisémitisme, c'est un problème de goy. Vous comprenez ce que je veux dire? À moins de transformer le monde entier en asile psychiatrique et tout le monde médecin pour soigner les goyim. Ils sont fous, c'est du délire, c'est pas autre chose. Bon, il y a des raisons à tout cela. C'est le malheur de l'humanité, etc. Et c'est comme ça que ça se traduit. Mais, là encore, je voudrais mettre en évidence... une des réactions de la conscience israélienne contemporaine. Nous ne croyons pas en tant qu'Israéliens que l'antisémitisme peut disparaître. Mais c'est pas que nous souhaitons qu'il y ait l'antisémitisme pour qu'il y ait la Aliyah. J'ai pas dit ça, hein. Bon, je pense que c'est clair. Mais nous ne croyons pas que l'antisémitisme peut disparaître. Parce que c'est un mécanisme naturel des sociétés humaines. Et c'est un autre séminaire qu'il faudrait faire, un autre chapitre. Mais comprenez bien ce que je veux dire là. Et nous savons que les seuls juifs protégés par des juifs sont les Israéliens, il n'y en a pas d'autres. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, mais je pense que si, les juifs n'ont pas la clé de ce problème, c'est les églises qui ont la clé de ce problème. Mais que si l'église avait le courage de se purifier comme elle le prétend, qu'elle est en assaise de purification, retour aux sources, ressourcement... si elle avait le courage de le faire, peut-être que ça transfigurerait le monde et qu'on se retrouverait face à face, Jacob et Esaü réconciliés, mais j'y crois pas parce que si après la Shoah ils l'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils attendent? Oui, ils l'ont pas fait, et tous ces balbutiements de hypocrites jésuites ou dominicains, vous savez, c'est des petites choses. Il n'empêche qu'il y a des jésuites et des dominicains à l'échelle individuelle mais c'est rien du tout, c'est des individus. Je parle de l'âme de l'Occident, c'est-à-dire soit l'Église, soit le Parti Socialiste, soit le Parti Communiste, enfin tous ces gens-là, quoi, et c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose vis-à-vis des juifs. Pardon ? C'est pour ça que je vous dis que le problème n'est pas entre la main des juifs. Et c'est pourquoi À partir du moment où on fait le bilan, vous comprenez? À partir du moment où on fait le bilan, on fait comme Moïse. Vous savez, quand Moïse a jugé l'Égypte, Israël, et il était le chef des deux, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il était capable de juger, il m'a dit, fini, on décroche, pas d'espoir. Je crois que nous sommes arrivés à ce temps-là. Je ne me proposais pas du tout de vous parler de tout ça, mais enfin, c'est dans le sujet quand même, parce qu'on va arriver à Bilam, puisqu'il nous reste encore une demi-heure. Rapidement, oui. C'est la même chose. C'est la même chose dans des fonctions culturelles différentes. Vous comprenez? Dans l'islam, l'enseignement du mépris dont a parlé Jules Isaac par rapport aux chrétiens est beaucoup plus gravement méprisant. Vous n'avez plus la mémoire des juifs de l'islam, moi je l'ai encore un peu. Il n'y a pas de plus grande relation de mépris qu'un musulman et un juif. Vous comprenez? Eh oui, mais il faut savoir cela. Alors qu'il y a une réaction de, comment dire, de, d'honneur donné à la Torah, mais pas aux juifs.
Justement, c'est là mon problème, parce que je comprends la fascination de la mort dans l'Occident, mais sur le plan de
Jésus d'Ismaël. Mais l'histoire de la rivalité nous est racontée, vous comprenez? C'est celui qui sait qu'il est presque arrivé là où il faudrait en tant qu'homme, et puis qui voit non qu'il est bloqué, mais que juste avant lui, il y a le juif. Alors, c'est cette espèce de haine de la frustration. Il n'y a que celui qui aurait pu arriver qui est frustré. Et plus on aurait pu arriver, plus on est frustré. Je reviens toujours à ce qui mes anciens élèves savent ça, que ça risque d'apparaître comme une obsession. Il y a un seul problème que nous avons avec l'égoïme. Ce n'est pas des problèmes théologiques, ce n'est pas des problèmes de communication de prophétie, ce n'est pas tout ça. C'est l'antisémitisme, il n'y en a pas d'autre. C'est ce problème-là qui explique la relation de l'universel à l'identité juive. Dès que le premier juif apparaît en germe, il est accompagné par un étranger qui lui ressemble comme son frère, comme disait Lucet dans la nuit de décembre, si je me souviens bien. C'est bien ça, ou la nuit de novembre, peu importe. Mais non, c'est la nuit d'octobre, enfin peu importe, non, de décembre. Eh bien, ah oui, c'était la Noël, d'ailleurs. Eh bien, et qui est l'anti-juif. Dès qu'il y a Abraham, il y a Nimrod. Dès qu'il y a Isaac, il y a Ishmaël. Dès qu'il y a Jacob, il y a Esaü. Dès qu'il y a les juifs, il y a les autres. Mais comment ils se définissent? Comme étant le frustré haïssant, n'est-ce pas? Bon, alors, c'est un problème de psychiatrie. Et je crois que Baruch a vu très clair. Ah oui, c'est pas le sujet, mais alors très rapidement. Ah oui, je suis. Okay. Mais je crois que c'est une réaction très saine. Ils ont peur. Ça veut dire qu'ils ont eu peur pour eux, c'est une réaction très saine. Okay? Et ça veut dire qu'ils sentent, sans être capables de le dire, que ça pourrait recommencer. Okay? Oui, justement, c'est cela, cette réaction de ces jeunes gens était très, très saine. Mais nous savons que ça peut... Regardez, vous n'avez qu'à réfléchir à ce qui s'est passé à la guerre de Kippour. S'il n'y avait pas eu une armée israélienne, ça aurait recommencé. Okay? Ça aurait recommencé dans le monde entier. Bien, alors en tout cas revenons à Bilam, parce qu'il nous reste une demi-heure pour lui. Je crois que je continuerai demain avec Bilam, parce que c'est un... Puis déjà on a abordé ce thème-là, c'est extrêmement ample dans les détails et ça vaut la peine de l'analyser. Alors au-delà de les prophètes des sociétés, il y a cette instance Bilam qui est à l'échelle universelle. La prophétie des Goïm comme entité collective contre Israël. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Cette entité apparaît au temps de fin d'exil. Quand est-ce que Bilam apparaît? Encore une fois, pas comme Bilam, prophète de tel peuple. Il était originaire, son père était le prophète de Midian. Mais lui devient prophète de Midian, devenant prophète des nations contre Israël. Et vous voyez, prophète vraiment. Vous voyez l'ordre de votre question. Prophète, vraiment, mais pourquoi sa prophétie malédisante, je ne sais pas comment on peut dire. Okay? Pourquoi? Parce qu'il a d'abord la haine d'Israël. Alors sa prophétie vraiment devient prophétie de malédiction. Je referme ce point. Mais pour dire ceci, c'est au temps de la sortie d'Égypte qu'apparaît inévitablement l'instance supranationale qui se relie à Israël. Je vous donne que deux comparaisons, enfin non, donc trois, les trois niveaux, je ne sais pas si on a parlé de ça. Au temps de la sortie d'Égypte, il y a une instance politique universelle, c'est la puissance de la souveraineté du Pharaon. Il est le Carter du temps. Okay? Le Carter, celui-là, ce tamé, là. Bon. Bien. Qu'est-ce qu'il est allé sauver son pétrole à Jérusalem? Alors, on verra ce qui se passera ces jours-ci. J'espère que je pourrai attendre dimanche pour rentrer à la maison, mais sinon, je rentre avant. Et voilà donc le problème. Il y a l'instance politique qui apparaît et la fonction prophétique correspondante. Vous y êtes? Ça, c'est passé au temps de la sortie d'Égypte. Le pharaon, Bilam, ce diagnostic est important, il est le porte-parole de la malédiction des nations comme universelle contre Israël. C'est le phénomène de la propagande. Qu'est-ce que c'est que ça, la malédiction de Bilam? Dire le mal d'eux. J'ai cité cela rapidement hier, on peut y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire maudire? Dire le mal d'eux. Mettre en évidence que le juif, c'est le diable. C'est ce qui s'est passé à 30 ans. Une espèce d'anesthésie de la bonne foi dans le monde entier. On a avalé cette énorme chose. Voilà. Le juif, c'est Satan. Okay. Vous voyez? Le juif, c'est le déicide. C'est le même problème. C'est Bilam qui parle dans cette manière de parler d'Israël. Okay. Nous avons une règle talmudique qui n'a pas d'exception. Lorsqu'il y a une telle systématisation dans la mauvaise foi, c'est que celui dont on parle est innocent. Okay. C'est clair. Mais ça, ça nous l'a dit lundi soir. Okay. Mais je me souviens d'une conférence de Robert Mizrahi, après la guerre des six jours, il y a déjà quelques années. Cette conférence est imprimée quelque part d'ailleurs, vous pourrez la lire, certainement dans les colloques des intellectuels juifs, où il dit avec son langage proprement philosophique et universitaire, ici pas Midrash, vous savez que Robert Mizrahi dit de lui-même qu'il n'est pas croyant, enfin il croit qu'il ne croit pas, quoi. Eh bien, il dit, Israël est innocent, un point, naquit. Et il dit dans le sens aristotélicien de l'innocence, il est innocent de tout ce que... Comment cette règle talmudique auquel je me réfère le monde, si quelqu'un est accusé à l'unanimité, et il y a une espèce d'unanimité de systématisation dans l'histoire effarante, okay, 30 ans après, ça recommence, okay, c'est la preuve qu'il est innocent. D'après la règle talmudique que vous connaissez, si dans un tribunal, il n'y a pas eu une voie pour trouver une circonstance atténuante en quoi que ce soit, c'est que ce qui se passe là dépasse le jugement humain. La règle est très claire, on est innocent. Oui. C'est cette voie unanime qui est la voie de Bilam. Okay. Je voulais analyser ce point de la propagande. C'est ça, Bilam. Il veut dire le mal, Dieu lui fait dire le bien, mais dans la manière dont il dit le bien, c'est le mal qu'il dit. C'est une nouvelle vision, les versets de la prophétie de Bilam, « Atovu alecha Yaakov », c'est-à-dire la calomnie. La calomnie m'est érigée dans cette science de la propagande que les Allemands ont inventée. Vous savez que c'est eux qui ont inventé cette science, qu'ensuite tous les autres régimes ont adopté, enfin le marxisme russe, le marxisme chinois, en fait, sont devenus des virtuoses de la propagande à la manière nazie, Goebbels, vous vous rappelez de cela. Voilà, on peut faire dire à n'importe quoi, on a eu à faire entrer ça dans le crâne des foules, et puis voilà. Et vous savez très bien que c'est le peuple juif qui est la cible actuellement de cette espèce de calomnie universelle, systématique, mais ça était comme ça à travers les siècles. C'est ça, Bilam. Et il y a une fonction de prophétie à l'échelle des nations qui est la malédiction d'Israël, qui est corollaire et contemporaine de cette instance universelle qui doit apparaître au moment des fins d'exil. Je veux relier ces deux problèmes. Pour que ce soit le temps de mettre fin à l'exil d'Égypte, il faut que la souveraineté politique universelle l'admette. C'est pourquoi le pharaon a reçu 10 plaies jusqu'à ce qu'il se décide à dire « Allez vivant ». Vous voyez ce que je veux dire? Tant que le pharaon n'a pas donné le feu vert, on ne pouvait pas partir. Bon, la deuxième fois dans l'histoire, c'est Cyrus, la déclaration Cyrus. Cyrus était la puissance politique de l'époque. Alors Cyrus a donné le feu vert. Qui était le Bilam de l'époque? Cyrus, Koresh. Non. Oui, c'est pas mal. Oui, Aman. Enfin, c'est la propagande anti-religieuse. Anti-religieuse, enfin contre la religion, le judaïsme comme religion qui commence à cette époque-là. Et puis, de notre temps, l'instance internationale est apparue précisément au moment où il fallait pouvoir donner le feu vert. Pendant les 2000 ans d'histoire, il n'y a pas eu de souveraineté politique supranationale. Et puis, au moment de la déclaration Balfour, apparaît cette instance supranationale, parce que c'est le temps de fin d'exil pour le peuple juif, et corollairement, c'est cette propagande anti-juive qui a éclaté avec le nazisme, mais qui se continue avec l'antisémitisme, l'antisionisme, etc. Je crois que il faut bien prendre garde à cela. Bilam accompagne de façon permanente l'histoire d'Israël, et dans les moments historiques de sortie d'Égypte, le Bilam historique apparaît. Et c'est aujourd'hui cette propagande anti-juive. Je veux dire que, encore une fois, l'expérience de notre histoire nous montre que ce problème de l'antisémitisme reste entier. Il n'y a pas eu d'aveu. Les idéologies politiques qui, par vocation, devaient lutter contre cette forme, toutes les formes de racisme dans celle-là, sont elles-mêmes devenues les pires antisémites. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense à toute la gauche, enfin à l'antisémitisme de gauche. Ça étonnerait n'importe quel martien. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Ils sont déboussolés. Bon, mais ça n'étonne pas. Le Midrash. Halacha, Esav, Soné et Israël. Le signe, c'est quand on prend le drapeau rouge. Si c'est le rouge sangré et oro des Espagnols de l'Inquisition, le rouge et l'or, le rouge de Edom. Et plus il y a du rouge dans le drapeau, et plus il y a l'antisémitisme. Il voit rouge. Dès qu'il entend qu'on lui parle de la taureau, alors il voit rouge. Voilà ce que je veux dire, c'est que vous verrez Rashi sur la naissance d'Ésaü, va yetzer Arishon Admoni. Rashi cite la Gemara qui dit Melamed Sheaya Atid Liot Ish Damim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est le drapeau rouge sanguinaire. Vous voyez la différence au fond entre la France et Israël, d'après les drapeaux. C'est l'antisémitisme. Il y a bleu blanc et bleu blanc rouge. Bien. Revenons donc à notre typologie de Bilam. Vous voyez quelle fonction il a. Alors, notre question est la suivante. C'est pourquoi le Midrash oppose Bilam à Abraham et pas à Moïse? Aidez-vous ce qui était là dans les jours précédents de ce que nous avions vu à propos du Hineni d'Abraham et du Hineni de Moïse. Vous vous rappelez ?